BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas.
Bonjour, bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Aujourd'hui, nous serons en Bretagne, à Vannes, chez Bodmer, une ETI spécialisée dans la distribution automobile. L'automobile, un secteur ô combien malmené par la transition énergétique. Notre reporter Philippe Indolbo est sur place et notre expert viendra en plateau avec ses solutions. Puis nous parlerons intelligence artificielle et climat. Est-ce que l'IA va tuer ou au contraire sauver le climat? Les avis sont très divergents sur la question et on en parlera avec deux dirigeants qui mettent concrètement l'IA au service du climat. Laurent Félix d'Equimetrix et Tristan Picard d'Accenta. Et on terminera l'émission avec le journal du climat d'Antoine Poincaré, son regard très tranché sur l'actu climatique. BFM Climat, on y va. Et on part donc en Bretagne pour commencer cette émission, à Vannes, chez Bodmer, spécialiste de la distribution automobile dans l'ouest de la France. S'il y a bien un secteur concerné, malmené par la transition, évidemment, c'est l'automobile. Philippe Indolbo est sur place avec les équipes de Bodmer.
Je me trouve aujourd'hui en Bretagne, au cœur de l'entreprise Bodmer, juste derrière moi, un acteur important de la vente d'automobiles avec ses 40 concessions dans l'ouest de la France. Bodmer, ils font face à de nombreux défis avec la mutation du secteur automobile et la transition climatique en fait bien sûr partie, vous vous en doutez. Et puis tout ça, ça implique de gros changements pour l'entreprise qui veut prendre le sujet à bras-le-corps. Alors je vous emmène découvrir chacun de ces défis avec les équipes de l'entreprise. Le premier défi pour Bodmer, c'est celui de la rénovation énergétique de ses concessions, comme celle qui se trouve justement juste derrière moi, concessions qui sont de véritables passoires thermiques. Et vous allez le voir, avec 40 sites à moderniser, rien que ça, ces bâtiments immenses consomment au total énormément d'énergie. Alors forcément, rénover l'ensemble de ce parc immobilier et le mettre en conformité aux normes énergétiques, eh bien c'est un grand défi pour l'entreprise.
Étant donné l'évolution des réglementations environnementales, notre objectif est de diminuer notre consommation énergétique. Et ce n'est pas forcément évident, parce que pour une entreprise telle que la nôtre, nous avons une quarantaine de concessions automobiles. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des concessions qui sont des grands bâtiments avec des grandes hauteurs sur plafond. D'autant plus que c'est souvent des constructions qui ne sont pas forcément extrêmement récentes, qui n'ont pas été réfléchies pour optimiser la consommation énergétique. Ce que je veux dire par là, c'est que mon hall communique avec mon atelier, je ne peux pas décider de diminuer le chauffage indépendamment. Nous essayons d'optimiser nos infrastructures, mais ça demande énormément d'investissements, de travaux, avec des ROI, donc des retours sur investissement, qui sont souvent très longs. Et donc ça demande, sur une échelle, à l'échelle d'un groupe tel que le nôtre, beaucoup d'investissements, beaucoup de temps, ce qui n'est pas forcément évident, surtout avec l'évolution du marché automobile. On travaille également sur tout ce qui est production d'énergie renouvelable, notamment le souhait d'installer des panneaux solaires. Une des difficultés que nous avons, c'est par rapport à nos infrastructures, notamment nos toitures, ne sont pas forcément suffisamment robustes pour pouvoir supporter ce type d'installation. C'est pourquoi nous travaillons à la mise en place d'ombrières sur nos parkings, afin de pouvoir être producteurs.
Bonjour Manander.
Bonjour.
Merci de nous avoir accueillis dans votre entreprise, votre ETI familiale, donc le groupe Bodmer, dont vous êtes la directrice générale adjointe. Vous nous avez rejoint en plateau pour qu'on vous aide, pour qu'on vous apporte des solutions par rapport aux défis que vous nous présentez, qu'on est allé voir sur le terrain de votre entreprise. Et c'est Paco Vadillo de Carbone 4 qui va s'en charger. Bonjour Paco.
Bonjour.
Merci d'être là. On rentre dans le vif du sujet, Paco. On comprend bien, on voit bien que c'est compliqué de décarboner tout ce parc immobilier qui commence maintenant un petit peu à dater. Quels conseils vous pouvez donner à Manon ?
Alors effectivement, c'est un sujet qui est complexe, c'est un sujet qui est long, qui touche la plupart des entreprises qui vont avoir des bâtiments tertiaires, en fait, en réalité. Les conseils qu'on peut donner, c'est déjà de structurer la démarche, puisque aujourd'hui, les bâtiments qui sont concernés, les concessions, vont être soumises à une réglementation. On en parlait dans le reportage, le dispositif éco-énergie tertiaire. Et pour commencer, il va falloir maîtriser ces données de consommation, se demander quelle consommation on a. Est-ce que c'est de l'éclairage, du chauffage, de la climatisation, des process? Puis se demander s'il n'y a pas des consommations aberrantes, potentiellement. Est-ce que je consomme du chauffage que le jour, ou est-ce que j'en consomme aussi la nuit, quand je ne devrais pas? Et en fait, toute cette maîtrise de la donnée, déjà dans un premier temps, elle demande beaucoup de travail, beaucoup de temps, de compétences et d'argent, du coup. Et donc, pour une ETI, c'est important de commencer par là.
Ouais, maîtriser les données, vous le dites, vous me tordez une perche, maîtriser l'argent, vous en parlez dans le sujet. Hein. Est-ce que c'est le moment de lancer ce genre d'investissement? Vous parlez du retour sur investissement quand on voit la conjoncture du secteur automobile, de votre secteur. Est-ce que c'est le moment opportun là, d'avancer sur ces investissements?
En fait, c'est jamais le bon moment. Donc, c'est le bon moment, c'est maintenant. On est obligé. Alors, ça fait un peu tard. C'est un peu bête de dire ça comme ça, mais c'est vrai qu'on a une ambition, on a des trajectoires en termes de RSE. Donc, on est obligé d'y aller. Après, effectivement, je vais te parler du retour sur investissement sur certains travaux. C'est effectivement pas forcément évident de se projeter quand on a un manque de visibilité sur la rentabilité de son secteur dans les années à venir.
Mais quoi qu'il arrive, vous continuez à vous avancer, vous ne mettez pas sur pause.
Non.
Vous débrouillez pour trouver des solutions de financement.
On structure et effectivement, la partie data est un gros sujet. Déjà, de pouvoir récupérer l'ensemble des données nécessaires pour calculer ces fameux ROI et pouvoir prioriser les actions.
Prioriser les actions. Alors, on retourne sur le terrain pour aller voir un deuxième de vos défis, parce que justement, pour transformer votre entreprise, vous avez besoin de terrain, Philippine.
Deuxième défi pour Bonnemère, celui de l'accès au foncier. Le modèle économique des concessions automobiles change, plus besoin de surfaces aussi grandes. Bonnemère voudrait donc trouver de nouveaux locaux ou terrains pour ouvrir des concessions un peu plus petites, plus économes aussi en énergie. Mais trouver du foncier disponible, c'est loin d'être facile.
Du fait de l'industrialisation de nos métiers, j'entends par là la centralisation de la gestion de nos pièces de rechange, la centralisation de la préparation de nos véhicules d'occasion, la centralisation même de notre dépannage, nous avons réussi à réduire notre empreinte au sol. Notamment depuis plusieurs années, on doit être à peu près à 25%. On pourrait aller encore plus loin dans ces économies de mètres carrés, mais la difficulté est que faire des mètres carrés libérés, parce que si c'est pour avoir des mètres carrés vides, ça ne sert pas à grand-chose. L'objectif serait pour nous de pouvoir déménager sur des nouveaux emplacements, ce qui répondrait aussi à mes problématiques de récence des bâtiments en termes de gestion des énergies. Sauf qu'il est très compliqué de pouvoir trouver des nouveaux terrains. Effectivement, avec la mise en place des ZTL, donc les zones à trafic limité, les villes essayent de faire sortir au maximum la voiture. Donc nos clients n'ont plus forcément accès à nos bâtiments. Et de plus, l'automobile n'a pas forcément bonne presse dans les centres-villes. Donc les collectivités ne veulent pas forcément de nous proches des centres-villes. Et après, la réglementation ZAN sur l'artificialisation des sols fait qu'il est compliqué de trouver des nouveaux mètres carrés.
Ça en fait des bâtons dans les roues. Paco, est-ce que vous avez trouvé un terrain pour Manon ? Plus sérieusement, je trouve cet exemple hyper intéressant de la difficulté qu'ont plein d'entreprises, on entend beaucoup parler sur BFM Business, de la difficulté à trouver des terrains pour faire la transition.
Vous l'avez dit, plein d'entreprises, c'est vrai, c'est le point le plus important. En fait, c'est un sujet qu'on retrouve partout, notamment dans l'immobilier commercial. Tout a été dit dans ce reportage, c'est très intéressant. Il y a un besoin de trouver des terrains neufs et à la fois, ces terrains valent beaucoup, enfin ont une grande valeur et sont difficiles à trouver du fait du ZAN, ce qui est logique. Aujourd'hui, on doit réduire la pression qu'on met sur les espaces naturels. Mais en même temps, la transition environnementale est créée un changement des modes de consommation. On n'a plus besoin de ces grands showrooms dans les concessions automobiles. On a moins besoin de ces grands centres commerciaux. Donc c'est ce que je disais, les centres commerciaux sont aujourd'hui ont les mêmes types de problématiques. Et donc en fait, j'aurais envie de dire qu'il faudrait retourner cette problématique. Si les terrains sont difficiles à trouver parce qu'ils ont de la valeur, se poser la question de justement du foncier dont on dispose déjà, avec ces bâtiments qui sont peut-être trop grands, qu'on pourrait réhabiliter pour essayer de les réduire en partie. Et ensuite, ce foncier qu'on a libéré, voir ce qu'on pourrait en faire en fonction des besoins de l'entreprise et des besoins de la collectivité plus largement. Et là, on voit que c'est clairement du cas par cas. Ça va dépendre du foncier, ça va dépendre des besoins spécifiques et ça va dépendre des besoins de la collectivité, autour de la parcelle.
Manon Daher, est-ce que c'est le signe quelque part aussi qu'on va vers un monde, une société où il y aura moins de place pour la voiture ?
En tout cas, moins de place pour la voiture dans les centres-villes. Nous, c'est vrai qu'avec les territoires qu'on occupe, en Bretagne et en Normandie, croyez-moi que autour des villes où nous sommes, il y a besoin de mobilité.
Ouais.
Alors, une voiture propre, c'est sûr. Une voiture qui peut remplacer notamment des lignes de bus qui tournent à vide. Mais par contre, le besoin de mobilité existe bien dans nos campagnes et dans les périphéries de nos villes.
Ouais, donc ça pose, si on continue de tirer le fil, un petit peu la question de la décroissance. Je ne sais pas comment vous regardez ça chez Carbone 4. Est-ce que l'automobile, structurellement, doit aller vers de la décroissance ou est-ce qu'en fait, on est dans une phase d'adaptation et comme vous le disiez, une phase de dialogue avec les pouvoirs publics pour prioriser ?
Il va falloir questionner l'usage. Il va falloir questionner le nombre de kilomètres qu'on fait et puis ensuite, il va falloir questionner la manière dont on fait ces kilomètres-là, avec quel type de véhicule. Est-ce que c'est des véhicules personnels ? Est-ce que c'est des véhicules partagés ? Et puis, on va venir questionner le type de carburant, d'énergie aussi. Et donc, on commence à rentrer dans des problématiques qui, là, transforment complètement les modèles d'affaires. L'électrification des véhicules, qu'est-ce que ça veut dire à l'amont pour les constructeurs ? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise comme Bonnemère en termes de compétences de travailler demain sur des véhicules électriques alors qu'hier, vous travaillez sur des véhicules thermiques.
Et alors, justement, ça fait lien vers le troisième et dernier défi de votre entreprise qu'on est allé voir avec Philippine, c'est la question du réemploi des pièces usagées. On voit ça sur place, l'économie circulaire, donc.
Troisième défi, et pas des moindres, celui de l'économie circulaire. Comment récupérer et réutiliser les pièces automobiles qui, aujourd'hui, finissent à la casse ? C'est encore qu'un projet pour Bonnemère, mais l'entreprise y voit une des clés de sa transition climatique.
Nous travaillons aujourd'hui, en effet, avec de la pièce de réemploi. principalement en carrosserie, en collaboration donc avec les assurances, avec les experts. Nous sommes partenaires dans le groupe Bodmer avec une plateforme centralisée qui nous permet d'émettre des demandes donc à partir des données du véhicule. Nous recevons des offres de toute la France et nous pouvons choisir la pièce de réemploi utilisée. La difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, ce serait plutôt de convaincre le client sur le bien fondé de poser une pièce de réemploi sur son véhicule, de lui apporter en effet toutes les réponses aux questions de sécurité, puisqu'aujourd'hui, lorsque nous travaillons avec de la pièce de réemploi, on est principalement donc sur des éléments amovibles, portières, pare-chocs, des optiques. La seconde difficulté que l'on pourrait rencontrer éventuellement sur les pièces de réemploi, c'est lorsque la pièce arrive donc dans notre concession, on est obligé d'y retravailler, ce qui amène parfois des temps de main-d'œuvre supérieurs à ce qui était annoncé au départ sur l'expertise. Donc ça génère forcément un peu plus de contacts et parfois un peu plus de délais dans les réparations.
Alors Paco, pas si simple l'économie circulaire dans l'automobile. Hein, on voit, ça pose plein de questions. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Manon pour l'éclairer là-dessus ?
Pas si simple. Beaucoup de secteurs sont concernés par cette question de l'économie circulaire. Ouais. Là, ce qui est intéressant à voir ici, c'est qu'en fait, on a une problématique surtout de structuration. Le réemploi, il existe depuis longtemps. Vous savez faire, énormément d'acteurs savent faire sur le réemploi. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on structure un modèle d'affaires pérenne dans le temps qui permette d'utiliser ces pièces de réemploi. Et là, en fait, il faut embarquer l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, il va falloir des centres de reconditionnement, des nouvelles compétences. Il va falloir du stockage, encore du foncier. Et dans ce cas-là, peut-être que là, Bodmer a un rôle à jouer, par exemple, localement aussi, pour créer des partenariats, pour répondre à ce besoin-là. Mais comme je disais, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur qui doit être intégrée. Donc, à l'amont, il faudra que les constructeurs automobiles jouent le jeu, produisent des pièces réemployables, démontables. Là, on le voyait, je sais que Renault Group, pour n'en citer qu'un, le fait. Et puis, à l'aval, s'assurer qu'au niveau des assurances, on garantisse un usage sécurisé des pièces de réemploi et qu'il y ait un changement aussi des mentalités sur la pièce de réemploi.
Toute une filière qui doit se structurer. Il nous reste 10 secondes, Manon Der. J'ai une dernière question pour vous. On a abordé plein de sujets vraiment structurants et on voit que pour beaucoup, on est au milieu de la réflexion. Où est-ce que vous trouvez le temps de travailler, de réfléchir à tout ça, de trouver des réponses, sachant qu'en même temps, vous avez une entreprise à faire tourner et en plus, c'est pas pour me répéter, hein, mais dans une conjoncture compliquée?
Alors, dans le train.
D'accord, bonne réponse.
Non, plus sérieusement, c'est, j'ai envie de dire que le temps est assez relatif. On arrive à le trouver. C'est notamment pour ça qu'on s'est engagé dans la Convention des entreprises pour le climat, pour libérer du temps.
D'accord.
Parce que c'est le courage aujourd'hui, il est là, hein, c'est de réussir à libérer du temps et à pas être pris sur les enjeux économiques court terme. Donc, on le trouve.
Ouais, on le trouve, mais, enfin voilà, beaucoup de dirigeants disent que c'est un vrai sujet, quoi. Mmh. Dégager du temps pour m'occuper de ça et transformer le modèle d'affaires de mon entreprise.
Oui, il y a le fait de trouver du temps pour planifier et après, il y a tout le temps que ça prend aux équipes opérationnelles, notamment sur la collecte de data, sur la transformation de modèle, où là, effectivement, c'est très long.
Bon, mais c'est nécessaire. Merci, merci beaucoup à tous les deux. Manon Der, directrice générale adjointe de Bodmer, et Paco Vadillo de Carbon 4. Allez, on a parlé automobile, on va s'intéresser maintenant à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va-t-elle tuer ou sauver le climat, c'est la question que se posent de plus en plus d'entreprises et je reçois deux dirigeants qui se servent de l'intelligence artificielle justement pour faire la transition climatique de leurs clients. Bonjour Laurent Félix.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes le directeur général d'Equimetrix et avec vous Tristan Picard, bonjour.
Bonjour Thomas.
Merci d'être en plateau sur BFM Climat, vous êtes le directeur général adjoint d'Accenta. Laurent Félix, je commence avec vous. On vous connaît sur BFM Business, vous êtes au French Tech 120. Une de nos pépites françaises de l'IA, très concrètement, très simplement, comment est-ce que vous vous servez de l'IA pour aider vos clients à faire leur bascule climatique, leur pivot climatique ?
Donc déjà, c'est une bonne remarque, on aide nos clients. Mais avant ça, on aide aussi à montrer l'exemple nous-mêmes en nous transformant, nous, côté Equimetrix.
Ouais.
Donc on s'est engagé dans une feuille de route ambitieuse pour réduire les émissions carbone d'Equimetrix elle-même. Mais ensuite, l'émission carbone d'Equimetrix est faible par rapport à celle de ses projets auprès de ses clients.
Ouais. Donc c'est effectivement le fameux scope 3 dont on parle.
Effectivement. Donc c'est effectivement ça. Et donc comment est-ce qu'on se sert de l'IA pour décarboner nos clients, disons ? Il y a plusieurs manières. Je vous donne plutôt des exemples. Je pense que ça sera plus facile. Mais le chapeau global, c'est quand même de dire que pour nous, l'écologie et la transition écologique, c'est un sujet de business pour ces entreprises-là. Ça peut choquer un petit peu, mais pour nous, c'est ça la façon dont on le voit. C'est-à-dire que on considère que les entreprises qui vont aller vers cette transition écologique, les premiers, et on parle encore de pionniers aujourd'hui, sont ceux qui vont s'en tirer dans la sphère économique, y compris dans la sphère économique demain. Sauf que c'est très compliqué de concilier les enjeux de performance et les enjeux business. Ouais. C'est là où l'IA intervient, c'est en résolvant cette équation difficile. D'accord. Là, je vous donne un exemple. Typiquement, un grand compte du CAC 40, il a des dizaines de milliers de fournisseurs dans sa chaîne de valeur, que ce soit en amont ou en aval. Et il a lui-même dans son scope 3 l'ambition de réduire l'empreinte carbone de cette chaîne de valeur dans son entièreté. Ouais. Comment est-ce qu'on fait quand on est un grand compte du CAC pour adresser des dizaines de milliers de PME? Eh bien, nous, on a une solution qui le fait. C'est-à-dire qu'elle permet d'estimer en deux clics l'empreinte carbone de chacune de ces dizaines de milliers d'entreprises et de fournir un plan d'action personnalisé au secteur, à la taille, à la géographie de ces acteurs-là. Voilà. Et ça, c'est très puissant.
Toutes ces PME, tous les fournisseurs vous fournissent des données, c'est ça?
Non, justement, je leur demande pas de données. Je me sers des données que j'ai à travers différentes bases,
c'est des comparables
ou privées.
D'accord, ok.
Et on fait, il y a des algorithmes de comparaison, pour le dire simplement, qui permettent d'être très précis dans ces estimations-là et d'être pertinent dans les plans d'action qu'on propose.
Hyper intéressant à vous aider, donc vos clients derrière à passer à l'acte.
Exactement.
Très intéressant et très, très clair. Même question pour vous, Tristan Picard. Donc vous, Accenta, c'est l'IA au service de la décarbonation du bâtiment, du logement. Expliquez-nous comment vous faites.
Ouais, c'est exactement ça. En fait, nous, notre mission, c'est de simplifier la décarbonation des bâtiments, privés, publics, tout type de bâtiments. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des technologies qui sont éprouvées, comme la production de chaleur et de froid par la géothermie, parce qu'on s'adresse surtout, en fait, on s'adresse au chauffage des bâtiments et climatisation, parce que c'est ce qui représente 75% des émissions de CO2 dans le bâtiment, qui lui-même pèse à peu près pour un tiers des émissions en France.
Ouais.
Donc là-dessus, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs briques. D'une part, on peut mieux piloter ce qui existe, donc toutes les installations techniques de chauffage et de climatisation. Donc là-dessus, on a développé une solution sur laquelle l'IA vient nous aider, puisqu'en fait, l'IA, alors je vais l'écrire aussi sur l'autre solution qui est la production d'énergie, donc production de chaud et de froid en se basant sur la géothermie. Et en fait, l'IA nous aide in fine. Alors comme tu disais, Laurent, le but, c'est que pour les clients, on leur permette de décarboner en résolvant différentes contraintes qu'ils ont. Parce qu'en fait, les technologies qui permettent de décarboner, malheureusement souvent, semblent chères, en tout cas à l'investissement initial. Or, la bonne nouvelle, c'est que derrière, dans l'exploitation, elles le sont moins. Et qu'est-ce que l'IA permet ? C'est qu'en fait, l'IA, déjà, au moment de la conception, elle va nous aider à envisager énormément de scénarios, beaucoup plus que ce qu'on pourrait faire en bureau d'études.
D'accord.
Et donc, elle va simuler tout type d'installation. Et ensuite, elle va simuler la vie du bâtiment dans le temps, en prenant en compte les caractéristiques du bâtiment, ses isolations, etc., les usages, et les prédictions de température dans le temps. Et du coup, grâce à ça, en fait, grâce à l'IA, l'IA nous propose ces scénarios qui sont déjà optimisés. Et ensuite, une fois qu'on implémente, donc du coup, ça nous permet de trouver le meilleur compromis avec le client sur la solution technique et qui soit financièrement viable et qui lui permet de décarboner. Mmh. Et ensuite, dans l'exploitation du bâtiment, notre IA, elle, est une régulation prédictive et intelligente. C'est-à-dire qu'en fait, régulièrement, elle va analyser le bâtiment. Alors, elle va apprendre sur la vie du bâtiment. Plus le temps passe, plus elle apprend comment le bâtiment réagit quand il fait 0 degré dehors, 5 degrés, etc. et à quel moment il faut le chauffer. Et donc, va aussi proposer le meilleure utilisation. Est-ce qu'à tel moment, j'utilise tel ou tel système, la géothermie, la pompe à chaleur ou autre? Et au final, grâce à cette IA, on arrive à avoir des performances très fortes et donc des économies d'énergie. Mmh. Et donc, les économies d'énergie, ce sont des économies sur la facture.
Ouais.
Et en fait, ces économies sur la facture que du coup, on peut garantir, parce que l'IA est l'outil qui nous permet de le faire, font que finalement, je reviens au point de départ, là où l'investissement était trop important, on va proposer à nos clients de le tiers financer.
D'accord.
Et c'est les économies générées dans le temps qui vont permettre de le tiers financer.
Alors, c'est très clair, complètement cohérent, mais il y a des clients qui vous suivent là-dedans. Est-ce que tout le monde est réceptif à ces arguments? Parce que quand on parle d'IA, le plus généralement, on parle de productivité ou de créativité. On pense moins spontanément au climat, à la décarbonation. Est-ce que vos clients sont réceptifs à se dire « Oui, je vais faire de l'IA pour avancer sur mes objectifs climatiques » Ou est-ce que vous avez beaucoup de pédagogie à faire là-dessus?
On a beaucoup de pédagogie. Pour être tout à fait honnête, l'IA, c'est un outil très puissant. Si on le met dans des mauvaises mains, ça donne Chine. C'est-à-dire la production de milliers de modèles quotidiens et des coûts écrabouillés. Donc ça peut être une catastrophe planétaire et sociale au passage. Et donc effectivement, l'IA, et on le sent bien sur le marché, a une assez mauvaise image. C'est des acteurs comme nous, avec Tristan, qui devons prêcher la bonne parole et surtout faire la démonstration que c'est aussi une solution. Et donc l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, c'en est un. Je peux en donner un autre dans le secteur de l'automobile. Quand vous avez une direction marketing qui a donc des moyens moteurs commerciaux et marketing pour développer ses ventes, vendre ses véhicules, avec la norme café, il est obligé de changer le mix. Et puis en plus, il y a l'arrêt des moteurs thermiques d'ici quelques années. Ouais. Et donc le fait d'arriver à avoir des modèles d'IA qui lui disent, en fonction de l'empreinte carbone du véhicule vendu, et donc elle est moindre pour les véhicules thermiques, elle serait encore moindre pour les véhicules plus légers. De faire du rétro-engineering, de dire l'empreinte carbone, si je la valorise et que je la rentre dans ton ROI, ça change complètement les ROI de ta direction marketing. Et donc là, c'est exactement le paradigme qu'il faut essayer de trouver entre une performance commerciale et une performance écologique.
Vous devez faire la pédagogie auprès des clients, mais j'imagine peut-être aussi auprès de vos concurrents, enfin en tout cas de l'écosystème. Il y a plein de boîtes, et notamment en France, et c'est une chance, hein, qui font de l'IA, mais est-ce que tout le monde se soucie du climat ou pas? Ou est-ce que vous êtes des exceptions tous les deux?
Alors, j'espère qu'on n'est pas les exceptions. On en rencontre quand même souvent, mais en fait, en effet, ça peut représenter un frein pour nos concurrents ou pour les clients, parce que finalement, si les clients demandent, il y aura plus de concurrents, et tant mieux, c'est que ça prend. Moi, je vois effectivement, comme tu dis, Laurent, dans les freins, il y a... alors nous, la question qu'on nous pose souvent, c'est, mais tiens, vous utilisez l'IA, mais est-ce que l'IA va pas à l'opposé de votre optique de décarbonation?
Oui, de sobriété.
Tout à fait. Alors là-dessus, on a fait les calculs, c'est epsilonesque. C'est-à-dire, j'illustre, en fait, quand on installe une chaufferie géothermique et qu'on installe notre module d'IA, la chaufferie géothermique, c'est plusieurs centaines de milliers de watts de puissance. Nous, c'est un PC qu'on branche sur un chargeur de 40 watts. Donc, c'est vraiment epsilonesque. Donc non, ça ne fait que contribuer à réduire. Après, ça peut faire peur. C'est-à-dire que pour certains, je vois nos clients ou peut-être concurrents, quand on parle d'IA, on dit oui, mais attention, est-ce que ça marche? C'est une chose que j'entends assez souvent.
Oui, bien sûr. Ouais.
Alors, moi, de ce que j'ai appris, c'est que dans l'IA, il y en a tout type. Alors, nous, en l'occurrence, on utilise une IA assez simple. Alors, ça fait quasiment une décennie qu'on l'utilise. Donc, on n'est pas sur l'IA générative.
D'accord.
Je la critique pas du tout, mais on est plutôt sur de l'IA de machine learning. Donc, on apprend. Et au final, nos algorithmes sont assez simples. En revanche, la préoccupation qu'on a pour répondre à cette potentielle crainte des clients, c'est de s'assurer que ça marche sur le terrain. Et nous, tout notre enjeu, il est là. Donc, c'est un IA simple, qui consomme pas tant que ça, qui nous aide quand même énormément, mais surtout faire en sorte que ça fonctionne, parce que in fine, les clients veulent décarboner, mais sans risque. Il faut pas abîmer le confort de température de leurs locataires ou de leurs etc.
Laurent Félix, le mot de la fin pour vous.
Non, je crois beaucoup à la notion de filière. C'est dur d'avoir quelques pionniers qui, entre guillemets, se battent et qui essayent de faire bouger leur business model. Si la filière se met pas en mouvement, c'est difficile. Ça s'appelle le dilemme du prisonnier. On a des coûts qui augmentent, des ventes qui baissent, des renoncements à faire. Et donc, on est un peu pris au piège. Donc, je crois beaucoup à la notion de filière. Et sur la filière de l'IA, nous, on a, modestement, on joue notre part avec des outils pour la communauté de data scientists et d'ingénieurs en IA. Ouais. Et je vous, un tout petit exemple encore une fois, c'est Claire.bot. Claire.bot, c'est un outil qui permet à tous les développeurs d'IA, allez sur Internet, Claire.bot. Et vous avez un triple agent qui vous dit comment bien développer votre IA.
D'accord.
En respectant les normes, en faisant attention à l'environnement et au social, aux biais sociaux, etc. Voilà.
Intéressant.
C'est en open source sur le marché.
Ok, de l'IA qui respecte le climat. Bon, merci à tous les deux. C'était extrêmement clair et concret. Vous êtes des pionniers et on espère que vous serez suivis. Merci à tous les deux. Donc, Laurent Félix d'Equimetrix et Tristan Picard d'Accenta. Allez, on accueille maintenant Antoine Poincaré pour son journal du climat. Bonjour Antoine.
Bonjour Thomas.
De retour d'Inde, directeur de l'AXA Climate School. Antoine, cette semaine a été compliquée, on l'a vu avec l'accord pour le moins mitigé à la COP29, mais vous voulez nous parler d'une bonne nouvelle et ça se passe au Danemark avec la signature d'un accord ambitieux.
Et ouais, au Danemark, les principaux partis politiques du pays appellent cet accord historique qui devrait modifier le paysage du Danemark comme jamais depuis 100 ans. Alors de quoi on parle? Deux grosses mesures. D'abord, une taxe carbone sur l'élevage. C'est une première au monde. Les agriculteurs vont devoir payer les émissions de méthane de leurs bêtes. Pour se donner une idée d'ordre de grandeur, une vache, ça sera à peu près 100 euros par an de taxes d'ici 2030 et plutôt 300 euros en 2035. Donc c'est significatif, cet argent sera réinvesti dans la transition du système agricole. L'autre très grosse mesure, c'est les terres cultivées. On va rendre 15% de ces terres cultivées agricoles donc à la nature, soit pour planter des forêts, soit pour les mettre en jachère. C'est absolument majeur, ça commence maintenant et ça se terminera dans 20 ans. Pour se donner une idée, au Danemark, les terres agricoles, c'est à peu près 60% de la superficie du pays. C'est un record avec le Bangladesh, donc l'agriculture tient un rôle absolument central. L'autre chose qui frappe, vue de France, c'est le mode de concertation de cet accord. Il a réuni les quatre partis politiques majoritaires, mais aussi les syndicats agricoles et l'industrie agroalimentaire pour arriver donc à ce texte de consensus.
Et puisque vous nous parlez de la France, Antoine, on part dans le Var avec la découverte cette fois-ci d'un foyer de fourmis venues d'Amérique du Sud. On les appelle les fourmis électriques.
Et oui, ces toutes petites fourmis jaunes que vous allez voir à l'image, ces fourmis électriques dont la piqûre est très douloureuse pour l'homme, mais qui sont surtout des espèces invasives, c'est-à-dire qu'elles viennent et elles délogent les fourmis locales, les autres insectes locaux, et donc elles dérèglent des écosystèmes. Des espèces entières sont obligées de fuir. On avait déjà trouvé un foyer de fourmis électriques, c'était à Toulon en 2022, et depuis on a presque rien fait. Alors il y a deux hommes sur le terrain, Olivier Blight et Luc Gommel, qui mènent le combat. Ils achètent un insecticide spécial venu d'Australie pour lutter contre la fourmi électrique. Ils viennent d'obtenir à peu près 200 000 euros de subvention. Ça ne devrait pas être assez. En Australie, sur les 20 dernières années, on a dépensé 28 millions d'euros pour lutter contre les fourmis électriques.
Effectivement. Et pour finir, Antoine, les résultats de la dernière votation en Suisse sont tombés et les Suisses ont voté contre l'élargissement de leurs autoroutes.
Oui, c'était un projet à 5 milliards de francs suisses, c'est-à-dire à peu près 5 milliards d'euros. Et ce qu'on voulait faire, c'était élargir les autoroutes, notamment de l'A1, la plus grosse autoroute du pays, près des villes, pour limiter les bouchons. Malheureusement, on le sait, élargir les autoroutes, ça ne réduit les bouchons que très temporairement. Et là où, à ce référendum, cette votation suisse, donc le oui était donné vainqueur par les premiers sondages, eh bien le non l'a emporté à 53%. Tout le monde est un peu surpris. Un sénateur conservateur, donc du côté du oui, dit qu'il y a quelques années, une votation pareille aurait été gagnée largement. Les temps changent donc pour ces gros chantiers autoroutiers, là où en France, le chantier de l'A69 est toujours polémique.
Merci beaucoup Antoine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de BFM Climat. Merci bien sûr à la CEC, comme toujours, pour son aide précieuse dans la préparation de cette émission. À la semaine prochaine et d'ici là, on garde contact sur l'appli BFM Business, sur les réseaux sociaux et en podcast. À très vite.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.